France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XXe siècle, les femmes se heurtaient de part et d'autre de l'Atlantique aux mêmes obstacles pour obtenir des diplômes universitaires, des postes dans l'enseignement supérieur ou pour participer pleinement à la recherche scientifique. Devant ces obstacles, des associations de femmes ont vu le jour aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis ont constitué en 1919 le tout premier groupe international scientifique exclusivement féminin destiné à lever ces barrières. Science Chrono raconte aujourd'hui l'histoire entre deux guerres de cette fédération et de son apport à la création d'une figure scientifique au féminin. Et bonjour, Anna Cabanel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire à KU Leuven et autrice du livre « Femmes de science, le mouvement des University Women dans l'entre-deux-guerres » paru aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter cette histoire de l'organisation des femmes diplômées des universités. Avant d'écouter l'archive qui va ouvrir notre discussion, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons archéologie du tatouage après la parution d'une étude récente qui a réexaminé avec précision les tatouages d'une momie péruvienne de près de 1000 ans. L'occasion de se demander comment se développe aujourd'hui l'archéologie du tatouage et avec elle l'archéologie plus globale des modifications corporelles. Mais avant cela, retour à notre histoire des sciences et à la naissance de la toute première organisation scientifique exclusivement féminine. J'ai nommé la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, créée à Londres en juillet 1919. Et pour ouvrir notre émission avec vous, Anna Cabanel, on prend le pouls de l'atmosphère qui régnait lors des conférences réunissant les femmes membres de cette fédération. Nous sommes en 1926, le quatrième congrès de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités se tient à Amsterdam en juillet et août. L'américaine Virginia Gildersleeve, qui a été l'une des membres fondatrices de la fédération, prononce un discours devant l'Assemblée et la lecture de ce discours vous est faite par Maiwenn Guizhou.
Une quatrième conférence s'ouvre à présent, une nouvelle scène dans l'histoire de notre fédération. Sur les canaux pittoresques de cette ville de la mer, nous entamons une nouvelle étape de notre travail. En contemplant ce grand congrès des femmes universitaires du monde entier, j'ai ressenti l'envie de faire le bilan des réalisations des femmes au cours des 50 dernières années. L'ère qui s'achève a été celle des pionnières, traçant de nouvelles voies à travers les forêts épaisses des préjugés, ouvrant les portes de l'éducation ainsi que de l'accomplissement intellectuel et professionnel. Cette bataille, je crois, a été en grande partie remportée. Les portes, bien qu'il y ait encore quelques exceptions, bien sûr, sont pour la plupart ouvertes. Quels sont les besoins auxquels les femmes sont aujourd'hui confrontées ? Le premier est un problème d'adaptation qui, bien sûr, a souvent été discuté par le passé, mais qui est aujourd'hui au cœur des débats dans plusieurs pays. Le problème est ancien. Une femme universitaire ou professionnelle n'est pas née pour être célibataire, sans enfant et sans foyer. Ce n'est bon ni pour elle, ni pour l'État. Comment peut-elle à la fois mener et concilier une carrière, un foyer, un mari et des enfants ? Le deuxième et le plus grand besoin des femmes universitaires et professionnelles du monde est que celles-ci, ou du moins un grand nombre d'entre elles, accomplissent un travail d'une qualité absolument exceptionnelle, un travail d'excellence. Un travail qui ne nécessite ni excuses, ni justifications. Un travail dont le monde ne dira pas « c'est excellent pour une femme », mais simplement « c'est excellent ». Produisons tant de travaux scientifiques de qualité que plus personne ne songera à remettre en question la place des femmes en tant que professeurs d'université. Et qu'il en soit de même dans les autres domaines. C'est notre besoin le plus vital et le plus urgent à l'heure actuelle. Produire un travail de la plus haute qualité. À cette fin, nous devons consacrer notre énergie à soutenir les jeunes femmes les plus prometteuses dans les premières étapes de leur carrière professionnelle et scientifique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bourses de recherche constituent sans doute notre principal enjeu.
Voilà, Anna Cabanel, c'est vous qui avez fait le choix de ce texte et de ce discours prononcé à l'occasion de la quatrième conférence de la Fédération dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi avoir fait le choix de ce texte-là en particulier ? Qu'est-ce qu'il incarne et qu'est-ce qu'il résume bien selon vous ?
Alors déjà, c'est un discours qui a été prononcé lors d'un congrès qui pour la première fois, réunissait des femmes scientifiques de tout horizon, donc de toute discipline, de différents pays. Et en fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que dans les conférences, les femmes n'avaient souvent pas droit à la parole, étaient en minorité. Et donc, c'est un événement qui est important, non seulement pour permettre aux femmes de se réunir, mais aussi pour être vues en nombre et donc s'imposer, dire la place qu'elles prennent maintenant, donc en 1926, au sein du milieu universitaire et scientifique. Et puis, il y a pas mal de sujets qui sont abordés. On y parle des pionnières, celles au 19e siècle qui ont ouvert les portes des universités dans différents pays. On parle de la difficulté principale qui est de concilier le rôle traditionnel de la femme qui est au foyer, qui est de s'occuper de ses enfants, et puis la profession, et puis surtout d'un des programmes fondamentaux développés par la Fédération internationale des femmes diplômées d'université, qui est un programme de bourse de recherche que pour les femmes, pour leur permettre d'aller à l'étranger et d'étudier pendant un an.
Il y a aussi un fort enthousiasme dans cette prise de parole qui dit « toutes les portes sont ouvertes ». Alors c'est peut-être un peu exagéré parce qu'en 1926, on imagine que les portes n'étaient pas toutes ouvertes.
Elles ne sont pas toutes ouvertes, mais il faut considérer que cette femme, Virginia Gildersleeve, est l'une de ses pionnières. C'est l'une de ses pionnières qui a fait un doctorat en 1908, qui a été l'une des premières femmes élues donc assistant professor à l'Université de Columbia à New York, après qui est devenue la doyenne de l'équivalent de l'Université de Columbia, mais pour les femmes. Donc pour elle, c'est l'une de ses pionnières. Les fondatrices de cette fédération sont des pionnières qui ont participé en fait à ce mouvement. Donc pour elle, de sa perspective, en fait, il y a eu énormément de progrès. Évidemment, ça fait partie aussi d'une rhétorique d'être très positif, de montrer aussi l'importance des bourses, parce qu'il s'agit aussi de récolter des fonds et de montrer le
dynamisme,
bien fondé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça.
Alors c'est intéressant parce que là on est en 1926, on va remonter un peu dans le temps parce qu'il y a entre le 19e siècle et 1926 une première guerre mondiale et on en parlera bien sûr et on évoquera l'importance qu'a eu ce conflit mondial pour le développement de ces mouvements. Mais puisqu'on parle des pionnières et du 19e siècle, faisons un petit tour d'horizon au tournant du 19e, 20e siècle de la place des femmes dans le monde de la recherche scientifique mais aussi dans le monde académique, le monde universitaire, si on commence par la France et puis qu'ensuite on va vers plutôt le monde anglo-saxon, le Royaume-Uni, les États-Unis. Quel était l'état des lieux de la place des femmes dans ces milieux-là?
Alors, les premières étudiantes en France, c'est vraiment dans les années 1880, avec d'abord la première étudiante qui a passé le baccalauréat. Enfin, il y a plusieurs étapes en fait, qui permettent aux femmes d'accéder aux études universitaires. Les domaines de la recherche, donc on a l'école normale supérieure pour jeunes filles, avec Anna Amieux, qui est l'une des présidentes et l'une des fondatrices donc, de la Fédération française des femmes diplômées des universités. Mais voilà, c'est encore une place qui est assez limitée. La Sorbonne, par exemple, est plus ouverte aux étudiantes étrangères qui vont retourner dans leur pays et donc pas être en direct compétition, c'est ça, dans le monde de professionnel. Alors évidemment, on a Marie Curie qui est extrêmement connue, mais elle aussi qui pâtit des préjugés de genre, notamment par rapport à son mari, etc.
C'est intéressant parce que vous évoquez ce statut d'étudiante qui n'est pas accordé aux femmes jusqu'à tard. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour qu'elles aient le statut d'étudiante et non plus seulement d'auditrice libre. Et donc du coup qu'elles aient le droit, d'une certaine façon, de passer des diplômes. Si on se tourne maintenant vers le monde anglo-saxon, est-ce que les choses sont différentes? Et si oui, sur quel point?
Alors c'est un peu différent parce que l'éducation n'était pas mixte, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Aux États-Unis, on a en fait les Women's College qui apparaissent donc pareil dans les années 1850-1860 et en fait ça remplace les séminaires qui existaient avant mais qui avaient pour ambition d'éduquer les femmes à être de bonnes épouses, de bonnes mères, et ça change petit à petit le contenu de l'éducation qui est donnée aux femmes, en fait, change un petit peu. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce qu'au lieu d'être en minorité, une étudiante dans une salle, comme ça pouvait l'être à la Sorbonne, par exemple, c'est différent dans un women's college où elles sont entre femmes avec des femmes professeurs. Et donc, il y a aussi ce modèle de la femme qui a réussi à être professeure et des étudiantes qui ont un modèle direct.
Ces Women's Colleges, ils sont créés aux États-Unis dès le début du 19e siècle. Au Royaume-Uni, on leur emboîte le pas, je crois, vers 1849. Il me semble que c'est le Bedford College de Londres, voilà, qui est créé en 1849. Est-ce que dans ces colleges, dans ces universités-là, dans ces proto-universités, je ne sais pas comment les appeler, on enseignait toutes les disciplines et toutes les disciplines étaient accessibles aux femmes qui s'y inscrivaient, ou bien est-ce qu'il y avait quand même des spécialités, des éléments qui étaient plus enseignés que d'autres?
Non, évidemment, il y a les disciplines, elles devaient correspondre à ce qu'on se représentait de la nature féminine. Donc, par exemple, les langues étrangères, c'était quelque chose qui fait partie. En fait, c'est une sorte de continuation de l'éducation bourgeoise, de la noblesse, ouais. De parler plusieurs langues. Voilà. Mais le latin et le grec, ce sont des langues mortes qui sont plus, qui apportent plus de prestige, en fait. Mmh. Donc, mais d'une certaine manière, c'est intéressant parce qu'il y a des disciplines aussi qui apparaissent au tournant du XXe siècle. Et comme ces disciplines sont nouvelles, qu'elles attirent pas nécessairement les étudiants masculins, qui eux veulent aller dans les voies qui apportent le plus de prestige, du coup les femmes peuvent s'infiltrer.
Quelle discipline par exemple ?
Par exemple en biologie, il y a plusieurs branches.
Oui, c'est intéressant parce que c'est aussi un moment où finalement les sciences se spécialisent pas mal. Il y a une professionnalisation aussi de la figure du scientifique oui. autour de ces sciences dites dures entre guillemets. Et c'est pas forcément intuitif de se dire que finalement les sciences de la vie, les sciences techniques d'une certaine façon vont être peut-être plus accessibles aux femmes à ce tournant du XXe siècle.
C'est ça, et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que on a tendance maintenant à toujours voir tout ce qui est abstrait, qui est lié aux ordinateurs, aux calculs, comme quelque chose de très masculin. Mm-hmm. Et dans le passé, c'était pas nécessairement le cas parce que par exemple en astronomie, les femmes qui travaillent en astronomie étaient appelées des computers, donc des ordinateurs.
Mm-hmm. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont beaucoup contribué aux découvertes astronomiques. Elles ont souvent malheureusement été oubliées dans les listes de ces découvertes parce que il faut le rappeler, au début du XXe siècle, la figure du scientifique archétypal, c'est un homme, point. Et il n'y a pas d'autres options, Anna Cabanel.
C'est ça. Et puis ces préjugés sont tenaces parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Il y avait déjà l'image des bas bleus qui était extrêmement péjorative sur ces femmes qui avaient des prétentions littéraires, des prétentions scientifiques. Et puis ça continue parce qu'il y a une étude de la Fondation L'Oréal qui a été réalisée il y a quelques années de cela, qui en fait a fait une étude auprès de toute une partie de la population, quelle est l'image, comment vous représentez le scientifique. Et en fait, l'archétype, c'est toujours un homme blanc, un petit peu âgé, les cheveux hissures, donc un peu
Einstein. Un peu Einstein, quoi, voilà. C'est ça. Et les figures comme Marie Curie, bien sûr, font à l'époque déjà office un peu, d'une certaine façon, d'anomalie. On va revenir à notre sujet. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de comment, finalement, ces femmes, notamment dans les universités américaines, vont se constituer en association. Parce qu'avant de parler de cette fédération des femmes diplômées des universités qui se créent en 1919, il y a des modèles un peu qui se créent au Royaume-Uni et d'abord aux États-Unis. Quels sont ces mouvements des University Women, comment ils naissent et autour de quelle structure d'une certaine façon?
Alors du coup, donc j'ai parlé tout à l'heure de ces Women's College, et en fait, alors c'est vrai que ça comme c'est vraiment typique du monde anglo-saxon, ça permet d'avoir des générations d'anciennes élèves. Mmh. Qui restent en contact, puisqu'elles n'étaient pas, isolées. Au contraire, elles étaient ensemble, il y a des groupes, et elles se réunissent et elles discutent justement de l'avenir de ces Women's College, des femmes, de l'éducation des femmes. Et donc, c'est comme ça que naît l'association aux États-Unis. Le nom University Women a été pris en fait en 1919 dans une volonté d'internationalisation, parce que tout le monde peut à peu près comprendre, même en dehors des pays anglo-saxons. Et donc, on voit une de ces premières associations d'anciennes élèves qui se mettent en place aux États-Unis. Elles créent un premier programme de bourse, parce que leur idée principale, c'est que à ce moment-là, aux États-Unis, pour pouvoir faire de la recherche, il faut partir en Europe, notamment en Allemagne. Et beaucoup d'étudiants masculins vont se former en Allemagne et les femmes n'ont pas accès à cette formation à l'étranger.
Si je donne quelques informations, donc par exemple, la première association de University Women, c'est l'ACA, l'Association of College Alumni, donc l'association des élèves d'université d'une certaine façon. En Angleterre, c'est 25 ans plus tard qu'apparaît la British Federation of University Women, avec comme objectif, je cite, encourager la production par des femmes de travaux de recherche indépendants, de faciliter l'intercommunication et la coopération entre les femmes des différentes universités et de stimuler les intérêts des femmes dans la vie municipale et publique. Alors ce qui est beau, c'est qu'il y a déjà cette dimension internationale qui est en germe dans ces propos.
C'est ça. En fait, en Angleterre, par exemple, ça s'est mis en place de manière locale, puis régionale, puis à l'échelle du pays. Mais il y a cette idée de coopération, mais c'est vraiment En fait, à l'après, enfin après la Première Guerre mondiale, où deux femmes représentantes les universités, des universités du Royaume-Uni sont envoyées avec d'autres universitaires faire un tour, du Royaume-Uni, elles font un tour aux États-Unis, et c'est là, en fait, qu'elles se rencontrent avec ces anciennes élèves, et elles décident de former quelque chose d'international.
Oui, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, vous le soulignez, Anna Cabanel, ces associations restent dans un cadre national, et arrive la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale où on sait la place cruciale qu'ont eu les femmes dans le fait que la société a dû continuer à tourner, et donc ça concerne aussi le monde universitaire d'une certaine façon. On arrive du coup après, on est encore d'ailleurs en pleine guerre mondiale en 1917, quand l'idée d'une organisation internationale de femmes diplômées d'université se met en place. Vous l'évoquez, donc c'est à partir de ce noyau britannique et américain que se constitue cette idée. Qui sont ces personnes qui pensent ce projet-là?
Alors du coup, Caroline Spurgeon, c'est donc l'une des premières universitaires en Angleterre, qui a été l'une des bénéficiaires d'une des premières bourses, en fait, qui a aussi voyagé à Paris, qui a fait une partie de sa thèse à Paris. Donc elle a déjà cette composante internationale dans son parcours. Et donc elle a envoyé aux États-Unis, et là elle rencontre Virginia Gildersleeve, et c'est là qu'elles ont cette idée avec une autre personne, mais qui est décédée entre-temps en rentrant de la fièvre espagnole. Et elles ont cette idée-là de former une fédération qui, en fait, pourrait réunir ces deux pays, mais au-delà, promouvoir une vraie coopération internationale entre des femmes de différents pays. Alors, c'est vrai que l'Allemagne n'est pas intégrée de suite, il faut attendre 1924, mais tout compte fait, c'est quand même assez rapide. Et voilà, et donc c'est comme ça que naît cette idée. Et puis, un an plus tard, les Américaines sont invitées à venir en Angleterre et puis font un tour d'Europe pour pouvoir repérer les bonnes personnes à qui parler.
C'est qui les bonnes personnes à qui parler?
Vers les bonnes personnes. Alors, donc, il faut savoir quand même que toutes ces femmes sont protestantes, et elles vont utiliser à la fois les réseaux protestants, donc Anna Mieux est protestante, mais aussi des femmes qui ont une expérience internationale, qui ont une expérience aux États-Unis. Donc pour par exemple Anna Mieux est la première femme à recevoir une bourse de voyage autour du monde d'Albert Kahn, et elle part aux États-Unis avec cette bourse. Donc il y a ces connexions déjà, cet aspect international dans leur parcours, et puis ce sont toutes des femmes qui ont atteint un certain niveau. Donc, en tant que directrice de l'École normale supérieure pour jeunes filles de Sèvres, c'est l'une des personnes à qui parler,
qui constitue l'élite.
C'est ça.
Ouais. Alors, il y a un cadre aussi plus global d'un féminisme international qui s'est constitué. En 1888, se crée le Conseil international du droit des femmes. En 1904, il y a la création d'une organisation féministe importante, l'Alliance internationale des femmes. Comment ce mouvement des University Women se conjugue-t-il avec ce féminisme qui se structure, ou bien, au contraire, se met-il en tension, d'une certaine façon, avec ce féminisme naissant?
Alors, il n'y a pas de tension, mais elles font très attention à développer leurs propres espaces, leurs propres spécificités. Toutes les associations que vous venez de citer, elles sont ouvertes en principe à tout le monde, tant qu'on est de sexe féminin. Alors que pour la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, il faut avoir au moins l'équivalence d'une licence. Donc c'est déjà dans leur recrutement, c'est assez spécifique. Hein. Tout le monde ne peut pas être membre. Mais après, il y a des collaborations. Par exemple, quand elles décident de la date des congrès, elles sont conscientes que une femme scientifique peut aussi être membre de l'Alliance, etc. Et donc, elles doivent se rendre dans les différents, aux différents congrès. Donc, il y a vraiment une coopération, mais elles essayent de se distinguer de ces mouvements féministes parce que leur idée, c'est plus de s'intégrer et de changer les choses de l'intérieur.
De ne pas renverser la table, pas être dans une forme de contestation qui serait mal vue par la société. Mais c'était la question, le prolongement de cette question, c'était dans ce terme University Women, qu'est-ce qui primait? Est-ce que c'était University? Est-ce que c'était Women? Est-ce qu'elle se définissait d'abord comme universitaire scientifique avant de se revendiquer femme? Ça, c'était une vraie question que je me posais finalement en préparant cette émission, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui accompagne toute l'histoire de ce mouvement-là.
C'est ça. Alors évidemment, ce sont des femmes, parce que c'est l'idée d'une association faite pour les femmes, d'un programme de bourse dédié aux femmes. Mais avant tout, ce qu'elles veulent faire valoir, c'est que ce sont des scientifiques, ce sont des universitaires. Et donc, dans beaucoup de sources, on retrouve l'idée qu'elles sont toujours surprises, qu'on les considère comme des femmes, qu'elles ne sont pas, par exemple, capables d'aller dans un terrain d'études sur les glaciers, etc. Et je comprends pas. Ils ont oublié que je suis d'abord, avant tout, une universitaire. Et toute l'idée, et même dans l'archive, c'est ce qu'on retrouve, c'est que elles veulent pas. Oui, elles ont une organisation pour les femmes parce que elles jugent que c'est important à ce moment-là d'avoir quelque chose pour les femmes où elles puissent s'exprimer, etc. Mais que leur but, c'est d'être considérées comme des universitaires et de changer en fait l'image du scientifique, de ne plus la rendre genrée en fait, de rendre quelque chose qui soit acceptable pour tout le monde.
Alors si on fait un peu de chronologie, donc la Fédération internationale des femmes diplômées des universités se crée en 1919 à Londres. Il faut attendre 1920 pour que se tienne le congrès inaugural de la fédération, avec 12 pays représentés, si je dis pas de bêtises. Quel était l'objectif annoncé de ce congrès inaugural, congrès qui en soi est déjà un acte récurrent, enfin qui va être récurrent pour cette fédération-là.
Alors l'idée, c'est vraiment de rassembler des femmes de différents pays, de discuter ensemble des conditions dans chaque pays, etc., et d'essayer d'étendre le mouvement. Parce que ce qu'elles veulent, c'est vraiment être internationales. Alors on sait bien que dans l'entre-deux-guerres, elles essayent d'être internationales, mais tout le monde, enfin, par exemple, il n'y a aucun pays du continent africain qui est inclus. Et après, évidemment, comme les conditions d'adhésion sont limitées, enfin, dépendent du niveau d'études, elles ont aussi conscience que ce niveau d'études n'est pas équivalent dans chaque pays. Et donc, ça peut retarder l'adhésion d'autres pays. Mais l'idée, c'est vraiment de promouvoir cette coopération internationale. Et par ça, elles s'inscrivent dans la mouvance de la Société des Nations, de cet internationalisme culturel. Hein, c'est l'idée que les sciences, même si elles peuvent être engranger beaucoup de compétitions entre pays, c'est quand même quelque chose qui...
D'universel, c'est un peu un prolongement de cet idéal des Lumières, d'une universalité du savoir qu'on retrouve...
Cette république des lettres.
Voilà,
un peu.
Exactement. Alors, la question qu'on se pose, du coup, en lien avec ces congrès, c'est les modalités d'action d'une fédération comme celle-ci. On entendait parler de bourse, on entendait parler de congrès à l'instant. Quels sont les piliers, finalement, d'action sur lesquels vont se reposer ces femmes universitaires et scientifiques?
Alors oui, les congrès sont très très importants parce que ça permet de créer une dynamique de groupe, ça permet de discuter ensemble des conditions de la science, de la position en marge des femmes et pourquoi elles sont marginalisées, de discuter aussi des problèmes qu'elles rencontrent en tant que femmes. Donc par exemple, il y a ce concept de mortalité maritale qui a été amené par Johanna Vesedijk, donc une néerlandaise. Et c'est très intéressant de regarder la manière dont elle parle pas nécessairement du contenu scientifique parce que c'est pluridisciplinaire, mais elle parle vraiment de qu'est-ce qui constitue la science, comment on entre en science, et en fait montrer que la science c'est un champ social comme les autres. Donc ça c'est un point important. Et puis
il y a une dimension diplomatique aussi qu'on a tendance à oublier, parce que pour nous maintenant un congrès scientifique c'est absolument banal, mais à l'époque se déplacer des États-Unis vers l'Europe pour aller à Oslo, à Paris, à Londres, c'était quand même toute une aventure. Et là il y a une dimension bien sûr scientifique, mais aussi culturelle, rencontre culturelle et diplomatique.
Ah oui, une rencontre. Alors, diplomatique, oui. Il faut savoir évidemment que ça reste élitiste, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer, surtout aux États-Unis, vers l'Europe. Mais dans la période qui nous intéresse, les congrès sont tenus en Europe. Le deuxième congrès s'est tenu à Paris, parce que c'est le même moment où la Société des Nations, tout ça, se formait à Paris. Mais en 1924, on décide d'organiser donc à Oslo, mais c'est toutes les associations suédoises, finlandaises et norvégiennes et danoises qui se retrouvent parce que les pays nordiques ont gardé une place neutre pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ça permet d'inviter les Allemandes et de se rejoindre. Mais alors, moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai abordé dans cet ouvrage, mais par exemple, le choix de la langue.
Oui. La langue, alors, quelle est la langue choisie? Parce que le français, on sait que pour la diplomatie, était une langue importante à l'époque. Est-ce que c'est le français qui est resté? Est-ce que c'est l'anglais?
Alors, c'est l'anglais et le français, mais les Allemandes contestent, veulent que l'allemand soit intégré. Les Italiennes contestent aussi. Et donc, on dit, bon, c'est impossible de mettre toutes les langues. Donc, voilà, on va rester avec l'anglais et le français.
Il y a une dimension aussi spectaculaire qui transparaît, Anna Cabanel, dans les photos qu'on prend durant ces congrès de fédération de femmes universitaires. Dans votre livre Femmes de Sciences, j'ai sous les yeux là deux photos à Oslo. Alors, est-ce que vous pourriez me les décrire, me les commenter et m'expliquer aussi la dimension importante de cette communication visuelle autour de ces congrès?
Alors la première, on voit, c'est une procession de femmes. Donc elles sont guidées par deux étudiantes de l'université d'Oslo et elles suivent donc de manière très processionnelle, enfin très très digne en fait. Mm-hmm. Et elles portent la robe, leur robe d'université. Voilà, ouais. C'est ça, de différents pays, avec les chapeaux qui représentent aussi les différentes universités de différents pays. Et elles se déplacent vers l'endroit donc où va se tenir la conférence, l'université d'Oslo. Donc encore, on reprend les principes, les thèmes des congrès scientifiques. Et puis la seconde, c'est une photo de groupe qui rassemble des centaines de femmes d'université, toutes en toge, avec le chapeau de l'université, voilà.
Comment le monde académique majoritaire masculin perçoit-il ce genre de mouvement-là? Est-ce qu'il y a une frousse? Est-ce qu'il y a une frayeur? Est-ce qu'ils se disent « Ah mon Dieu, c'est foutu, on est envahi » Comment sont perçus ces mouvements-là?
Alors au départ, surtout notamment par les étudiantes, il y a énormément de caricatures qui sont faites sur les étudiants, l'idée que ça dénature la féminité, etc. Ce qui est intéressant, et je pense que c'est aussi le poids des photos et le choc des photos, le poids des mots, c'est ça.
Je sais plus, ouais, c'est le
Et du coup, elles font énormément attention à la manière dont elles se présente en fait, et ces photos qui sont envoyées dans la presse, et ben en fait elles sont reprises, donc il y a plein d'articles qui sont faits, et c'est intéressant de voir la manière dont dans certains journaux sont étonnés de voir que les femmes scientifiques peuvent aussi être coquettes, qui commentent leur robe. Alors évidemment, ce sont pas des choses que l'on retrouverait pour des photos qui seraient prises de d'autres congrès scientifiques. Donc il y a toujours cet aspect un peu surpris, et après ça varie. Mais par exemple là, on retrouve des femmes dans le domaine des mathématiques, c'est surprenant. Ouais. Voilà, donc elles essayent vraiment de détourner les préjugés. Alors après, il faut savoir que ce sont des archives. Donc les archives ont été... c'est une sélection, et donc il se peut qu'elles aient aussi sélectionné dans leur scrapbook que les articles les plus élogieux, mais voilà.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, Anna Cabanel, en tout cas à la fin de cette première partie de Science Chrono. On passera de côté l'invention des prix et récompenses qui permettent de mettre un autre plafond de verre pour ces femmes scientifiques et d'attribuer tous ces prix, comme les prix Nobel par exemple, essentiellement à des hommes. On parlait de l'entre-deux-guerres. Les années 30, c'est la montée du fascisme, des nationalismes en Europe. Quel effet ça a sur ces mouvements internationaux? Et est-ce que à cet endroit-là, ça va aussi jouer beaucoup dans et mettre en tension finalement ces groupes?
Oui, donc vous évoquiez le ton très plein d'espoir de cette archive de 1926. Et 6 ans plus tard, en 1932, déjà, le ton a changé. Les politiques natalistes mettent énormément de pression sur les femmes professionnelles, sur le retour des femmes à la maison, etc.
En Allemagne, les enseignantes juives sont chassées.
En Italie, plein d'associations nationales doivent s'écarter de la FIFDU. Ces femmes juives sont les premières, en fait, elles subissent une double peine, hein, parce qu'elles sont juives, elles sont femmes, donc déjà, c'était difficile pour elles d'obtenir une place, mais en plus, les conditions d'exil sont beaucoup plus compliquées que pour leurs homologues masculins, qui ont, par exemple, des postes prestigieux dans l'université. Et bien, les femmes sont, une fois de plus, mises à l'écart et discriminées, et voilà, c'est encore une fois une autre...
Un autre désastre provoqué par la guerre, et ce mouvement finalement s'est perpétué et continue d'exister, cette fédération continue d'exister. Merci beaucoup Anna Cabanel en tout cas d'être venue nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre paru aux presses universitaires de Rennes, Femmes de Sciences, le mouvement des University Women dans l'entre-deux-guerres. Merci encore.
Merci beaucoup.
Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman, I know you understand.
medicine woman.
Medicine Women par Robert Finlay pour tourner la première page de notre émission dédiée à l'histoire des sciences. On va à présent changer de sujet, se tourner vers un sujet qui pique, littéralement, et on va parler archéologie du tatouage.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Une étude récente conduite sur une momie tatouée il y a moins de 1000 ans au Pérou nous présente les motifs de ces tatouages sous un autre jour et avec de nouveaux détails. Si cette étude suscite la discussion, et on va voir pourquoi, elle nous invite à nous poser des questions plus générales. À quand remontent les plus anciennes traces de tatouages? Grâce à quelle variété de techniques ces tatouages ont-ils été réalisés aux quatre coins du monde? Et quel sens peuvent prendre ces pratiques ancestrales de modification corporelle? En un mot, commençant, comment le tatouage s'est-il invité ces dernières années à la table des sujets archéologiques d'intérêt? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Frans Mani, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, merci à vous d'être là. Vous êtes maître de conférences en génétique au Musée de l'Homme. Vous avez co-dirigé avec Francesco Derico un ouvrage collectif intitulé, si je traduis le titre en français, « Manuel d'archéologie et d'anthropologie des modifications corporelles » et c'est paru aux presses universitaires d'Oxford. Merci à nouveau d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous parler d'un sujet encore assez peu développé dans les études archéologiques, à savoir les modifications corporelles et parmi ces modifications, le tatouage. J'évoquais en introduction de cette émission une étude récente portant sur une momie péruvienne. Une équipe donc basée à Hong Kong, aux États-Unis, en Pologne et bien sûr au Pérou a conduit cette étude parue dans la prestigieuse revue PNAS ou PNAS. Quel était l'objet de ce réexamen d'une momie déjà connue dont on avait déjà vu les tatouages?
Et donc les auteurs de cet article, ils ont appliqué une nouvelle méthode, on va dire, et ça c'est le cœur de l'article, qui est basé sur cette fluorescence laser pour reconnaître les tatouages sur la peau de la momie d'une façon plus claire que ce qui est possible par la lumière naturelle. Donc, ce qui est fait actuellement, c'est plutôt de se servir d'images à l'infrarouge pour documenter ces tatouages. Et souvent, lorsqu'il s'agit des restes dans des musées, par exemple, alors les momies sont empoussiérées, elles ont une longue histoire, donc c'est vraiment difficile de voir. Alors, la technique à l'infrarouge marche bien. Et les auteurs de cet article proposent que leur technique marcherait peut-être mieux.
Oui, c'est un peu un article qui cherche à faire la promotion d'une nouvelle technique et d'une nouvelle méthode.
C'est plutôt ça. Donc, ce que les auteurs disent en général du tatouage du Pérou et de cette région n'est pas très précis. Il y a d'autres articles, dans l'ouvrage que vous avez cité sur l'archéologie et l'anthropologie des modifications corporelles, qui permettent d'aller plus loin. Donc c'est vraiment un article méthodologique. Maintenant, il y a eu un peu de polémique dans la micro-communauté.
Elle n'est pas très grande, ouais, cette communauté.
Non, parce que c'est vraiment quelque chose de naissant. Je pense qu'à l'échelle mondiale, des spécialistes vraiment du tatouage, il doit y en avoir 10. Donc on est vraiment, c'est une époque de pionniers par rapport à ces études sur les modifications culturelles du passé. Donc, finalement, ils utilisent un appareil qui est très cher, qui coûte entre 100 000 et un demi-million d'euros, donc qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et il y a des doutes qui ont été émis parce que le laser qui est utilisé est très puissant. D'ailleurs, l'opérateur doit porter une combinaison pour se protéger de ces lasers qui est utilisé dans l'analyse. Or, les momies, il faut les préserver autant que possible. Donc, sur la surface de la peau, il y a des traces du microbiote, donc de bactéries, des organismes, etc., qui peuvent être intéressants. Donc, ça se pourrait que cette technique soit un peu trop invasive. Et qu'elle puisse altérer même l'ADN si un jour on voudra faire d'autres études. Donc, ce n'est pas vraiment recommandé. Mais l'article a quand même le mérite de parler de ce genre de sujet, donc les tatouages du passé, et montrer qu'au-delà d'une nouvelle technique d'imagerie, il y a des choses à dire.
Il y a des choses à dire, notamment concernant la technique pratiquée pour ces tatouages, et notamment la finesse de ces traits. Je lisais en préparant cette émission que ce sont des tatouages qui ont des traits qui font entre 0,2 et 0,3 mm d'épaisseur, qui sont particulièrement subtils, dans une ère culturelle et géographique, le Pérou, où le tatouage était quelque chose de très pratiqué. Qu'est-ce qu'on peut en dire succinctement de cette pratique du tatouage au Pérou et de son importance dans cette période du Moyen-Âge?
Donc des restes péruviens ou de la partie septentrionale de l'Amérique du Sud, il y en a dans beaucoup de musées dans le monde, aux États-Unis en particulier. Il y a une étude qui a été faite sur cela. On en a au Musée de l'Homme. C'était quelque chose qui était un peu devenu à la mode parce qu'effectivement les restes humains tatoués dans cette région sont vraiment très nombreux. C'était une pratique majoritaire de ces populations et ces momies sont pas toujours très bien datées, mais en général il s'agit de toute cette période qui est avant l'arrivée des Espagnols en Amérique, donc dans l'époque précolombienne. Ce qui est surprenant dans cette région du Pérou, et c'est vraiment la fréquence de ces restes. Donc il y a sans doute une richesse qui n'a pas encore été comprise, parce que je vous disais, au Musée de l'Homme, il y a quelques momies colombiennes avec un collègue qui s'appelle Robin Gerst, qui est venu faire de l'imagerie à l'infrarouge, etc. Nous avons répertorié les motifs. Il s'agit des petits dessins, même si les dessins ont l'air géométriques. Ils sont composés des petits éléments qui correspondent à des poissons, par exemple, qui représentaient la base de l'alimentation, ou bien à des oiseaux, ou bien à d'autres motifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare ces motifs dans différentes aires géographiques du Pérou, on voit qu'il n'y a pas une division géographique. Et donc, on suppose que les différences qui existent quand même dans ces motifs pourraient être liées au niveau social ou peut-être à une image genrée dans la société, mais et les hommes et les femmes en avaient, et les jeunes et les personnes âgées, donc même les enfants. Donc, c'était quelque chose de vraiment
très répandu.
Très répandu. Et un autre point qui est important dans l'article que vous avez cité sur PNAS, c'est qu'ils disent les tatouages, d'accord, ils sont plus fins et ils seraient mieux exécutés, mais on retrouve la même chose sur les mobiliers, sur des statuettes, dans la peinture rupestre. Alors, ça c'est un gros sujet en fait, parce que c'est ce qui se dégage des différentes études qui sont publiées dans les livres. On s'est aperçu qu'un peu partout dans le monde, la grammaire visuelle, pour l'appeler comme ça, du tatouage, correspond à un univers visuel et iconographique plus large, qui est propre à la société, mais il y a des spécificités par rapport aux motifs et par rapport à vraiment cette grammaire visuelle lorsqu'il s'agit des tatouages. Donc, c'est pas quelque chose qui est déconnecté du reste des images de cette société, mais même dans le présent. Dans le présent, vous avez des gens qui se tatouent des personnages de bande dessinée, par exemple.
Oui.
Et c'est un type de tatouage.
C'est un prolongement.
Voilà, c'est dans une esthétique un peu warholienne, Et donc on reprend des éléments un peu pop culture. Et
disons donc, que là, quand on se concentre, Frantz Mani, donc sur ces statuettes et ces images-là, on constate des échos, mais aussi des spécificités
oui,
propres au tatouage.
Voilà. Mmh. Donc les motifs de ces tatouages des momies péruviennes qu'on a au Musée de l'Homme, on les retrouve même sur les textiles, même ailleurs, mais pas agencés de la même manière, ou bien avec des spécificités. Donc c'est quand même quelque chose qui parle de la société au sens plus large. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que les modifications corporelles ont été éradiquées un peu par les colonisateurs, un peu partout dans le monde. Parce que c'est pas juste une expression visuelle, c'est pas juste avoir une cravate ou pas l'avoir. Ça fait partie de tout un imaginaire, de toute une culture, d'une appartenance qui a été effacée.
Alors
en
là,
fait,
on va
remplacer. Donc
vous soulevez un point très important, Frantz Mani. Donc là, si on se détourne pour un temps de cette culture du tatouage au Pérou au tournant du premier millénaire et qu'on arrive vraiment à la question finalement de notre émission, c'est celle de l'archéologie du tatouage comme discipline naissante, comment expliquer finalement que jusqu'à présent il y a eu un relatif manque d'intérêt des générations précédentes d'archéologues pour cette pratique de modification corporelle particulière qu'est le tatouage?
Et cela vient sans doute d'un aspect générationnel, parce que les modifications corporelles sont présentes dans notre société occidentale, on va dire, de nos jours, d'une manière très forte. Et donc, lorsqu'on les pratique soi-même, on se rend compte qu'il y a un savoir-faire qui va avec cette pratique. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est tatoué que vous savez comment vous tatouez vous-même, si on vous apprend pas. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un dans la rue qui a un piercing de grandes dimensions à l'oreille que vous rentrez à la maison et vous saurez l'obtenir. Donc il y a des techniques qui sont derrière tout ça. Et ces techniques sont transmises parce que si vous allez dans un studio de tatouage ou de piercing ici à Paris, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train d'apprendre le métier, qui regarde, qui aide, etc. Donc il y a une transmission culturelle forte qui passe par l'apprentissage direct. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a des aires de répartition géographique dans le monde de différentes techniques des tatouages, qui sont principalement trois, l'incision, la piqûre superficielle, la piqûre subdermale.
Sous la peau, vraiment.
Sous la peau en profondeur. Et donc, elles sont réalisées avec des outils. Au minimum, il faut une aiguille, il faut un peu d'encre. Et si on regarde la répartition mondiale de ça, on s'aperçoit, par exemple, que la piqûre subdermale, celle en profondeur, se retrouve beaucoup au nord du continent eurasiatique et dans le nord de l'Amérique. Alors, est-ce que peut-être c'est une technique qui a migré vers les Amériques avec une quelques vagues d'immigration qui a eu lieu? Et un autre exemple formidable correspond aux langues austronésiennes, lesquelles langues austronésiennes correspondent presque parfaitement à l'ère des répartitions du tatouage qui sont faits avec
Polynésie, Mélanésie.
Voilà, qui sont faits avec un petit marteau, c'est comme un peigne très fin avec des pointes qui sont emmanchées sur une baguette et on tapote la peau et ça fait pénétrer donc l'encre en faisant plusieurs. Voilà, j'en profite pour faire de la publicité, si vous me laissez. Alors, moi, je travaille au Musée de l'Homme, qui fait partie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Hein, et donc, nous avons à ce moment une exposition migration au Musée de l'Homme. Donc, ça, c'est mon angle d'attaque, parce que vous avez dit que je suis généticien. Alors, pourquoi un généticien s'intéresserait au tatouage? Et je m'y intéresse parce que j'ai vu le potentiel dans toutes ces techniques et dans toutes ces pratiques pour les associer à ce qui est connu des migrations humaines par la génétique, par la paléontologie.
De la même façon qu'on peut faire de la phylogénie des mythes et étudier finalement le développement et
par
la circulation.
Ouais.
Par le tatouage, on peut aussi faire une phylogénie des peuples et comprendre les interpénétrations culturelles et les circulations de pratiques comme celle du tatouage. On évoquait à l'instant, Frantz Mani, cette question des techniques qui est très intéressante parce qu'elle nous renseigne déjà sur à l'échelle de certaines aires Géographique sur cette pratique du tatouage. On parlait tout à l'heure aussi de l'iconographie, des statuettes, des images qui vont nous renseigner sur soit la pratique de peinture corporelle qui sont distinctes du tatouage, mais pas tant que ça quand même, même s'il n'y a pas pénétration de l'encre sous la peau avec la peinture corporelle. Quels sont les autres types finalement? Quand on parle de restes en archéologie, quels sont les autres types de restes sur lesquels on peut travailler pour attester et étudier cette pratique ancienne du tatouage dans les sociétés humaines?
Donc vous avez une approche, l'approche la plus directe, évidemment, c'est disposer des momies. Mais les momies, ça peut pas être, ça se conserve pas sur des centaines de milliers d'années. Donc les momies, la momie la plus ancienne connue qui est du tatouage, c'est l'homme
Ötzi. Ötzi, l'homme du néolithique retrouvé dans les glaces des Alpes, qui est mort il y a
5200 ans. Italienne, voilà, retrouvé en 1991. Mm-hmm. Et cet individu qui était un homme, il avait 61 tatouages qui étaient divisés 19 groupes. Donc là, on a une idée assez claire. Ça a été interprété pour des raisons médicales. On sait qu'il avait de l'arthrose, on sait qu'il avait les artères bouchées, qu'il avait une parasitose intestinale, qu'il avait des calculs à la vésicule, qu'il avait la maladie de Lyme.
C'était pas la grande forme.
Il était en très mauvaise santé. Alors, on a interprété comme ces tatouages qui là sont plutôt des lignes parallèles avec quelques exceptions. Il y a une sorte de bracelet autour du poignet. Oui. Et puis il y a des petites croix dans les dos. Mais comme ça ne semble pas avoir un impact esthétique fort, on se dit que c'était pas pour l'apparence, ça devait être pour quelque chose.
Une vertu thérapeutique là. Dans ce cadre-là, parce qu'on se dit, ah tiens, ça a un trait, ça a un lien avec les articulations. Peut-être qu'à cette époque, on s'est dit, tiens, quand je me mets de la cendre qui a une potentielle vertu antiseptique sur une plaie, bah la cendre reste dans la cicatrice, ça fait une trace, tiens, ça a guéri, est-ce que je guérirais pas mes maux de lombaire avec des tatouages? C'est un peu la question qu'on se pose avec ces tatouages de Tsi.
Voilà. Et donc, ça reste toujours un peu énigmatique, mais là, maintenant, je vais vous surprendre. L'année passée, la mission archéologique à Hierakonpolis, dans la Haute-Égypte, a étudié les restes d'une momie, laquelle présente des alignements de points qui forment des petites lignes qui sont pratiquement identiques à ceux qu'on a retrouvés sur Ötzi. Mm-hmm. Et puis, c'est il y a 4000 ans. Donc, c'est 1000 ans après Ötzi. Là, comme ça, on divague un peu dans le temps. Il y a une autre momie qui s'appelle la momie de Pazyryk, qui a été retrouvée
dans l'Altaï, en Sibérie.
Dans l'Altaï, qui est dite aussi la princesse de l'Altaï. Alors, elle est très connue pour avoir un tatouage d'un animal qui ressemble à un cerf sur les épaules. Mais ce qui est moins dit, c'est qu'elle a aussi des séries de simples points qui sont placés d'une façon parallèle à la colonne vertébrale. Et là aussi, l'archéologue russe qui avait étudié ça dans les années 70 avait émis l'hypothèse que ce soit en lien avec quelque chose de thérapeutique et qui s'est retrouvé aussi ethnologiquement dans les populations sibériennes Yupit, par exemple, ou chez les nénettes en Sibérie. Alors, vous voyez, il y a une continuité dans le temps et l'espace. Évidemment, on ne sait pas pourquoi il y a ces tatouages qui sont moins caractérisés.
C'est un peu comme l'art pariétal, en fait. On n'a pas le pourquoi. On a le résultat, on a l'objet final, mais on ne sait pas encore interpréter réellement les fonctions de tous ces tatouages qui, comme vous le dites très bien à l'instant, Franz Mani, peuvent être à la fois très développés, comme dans cette grotte en Sibérie, avec les points le long de la colonne vertébrale très simples, et au contraire, ces motifs très, très, très élaborés. Qu'est-ce qu'on peut dire des pistes archéologiques, anthropologiques, qui nous permettraient d'interpréter ces vieux tatouages, ces très anciens tatouages?
Voilà, donc je réponds à cette question et aussi à la précédente, à laquelle j'ai divagué, mais je n'ai pas vraiment répondu. Vous m'avez dit quelles sont donc les pistes. Donc la première piste, c'est d'étudier les momies que nous avons et essayer de décrypter ces tatouages avec des techniques d'imagerie.
Sachant, si je fais une incise, Franz Mani, puisque c'est le cas, on parle de tatouages, faisons une incise, ces momies, elles sont retrouvées finalement dans des conditions de conservation très particulières. Il faut que soit très chaud, très sec comme au Pérou, très froid comme dans les Alpes ou en Sibérie, ou dans des zones avec une saturation en eau, en humidité. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne retrouve pas des tatouages partout dans le monde.
Voilà. Donc, les momies nous donnent une première indication. Une deuxième indication, qui est quelque chose qui est en train de développer maintenant, c'est de reconnaître parmi les assemblages, dans les fouilles archéologiques qui sont menées, mais aussi dans les objets qui sont conservés dans les musées, des aiguilles et des instruments qui auraient peut-être servi pour le tatouage. Alors, parfois, ces instruments gardent encore des traces de pigments à leur bout. Et alors, évidemment, les aiguilles, pour ainsi dire, ont toujours eu de très multiples usages. Mais si on veut vraiment revenir au passé lointain des tatouages, pour faire un tatouage, il faut au moins une aiguille ou quelque chose de très coupant, et il faut de l'encre. Alors que ce soit de l'encre, que ce soit d'autres encres à partir du charbon. Mmh. Et d'ailleurs, la composition des encres, par ce que l'on sait de l'ethnologie, est très intéressante. Et d'une façon archéologique, on peut aussi essayer de voir quelle était la composition de ces encres du passé. Mais en tout cas, si on n'a pas la preuve formelle que c'était bien l'instrument du tatouage, on peut dire c'était compatible ou pas avec la technologie de ça.
Et ces kits de tatouage, Franz Mani, on peut en retrouver au Paléolithique moyen. J'ai lu qu'on avait étudié dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud des aiguilles, en tout cas des aiguilles en os polies au bout avec des traces de pigments. Alors c'est vieux de 76 à 84 000 ans, alors on peut pas dire avec certitude ça servait à tatouer, mais en tout cas il y a un faisceau d'indices qui pourrait nous dire que le tatouage est une pratique très 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 ancienne.
Voilà, ça c'est les l'autre co-éditeur du livre, l'archéologue Francesco De Rico, est justement un grand spécialiste des parures et il s'est intéressé surtout aux pigments, à l'ocre, mais il s'est intéressé aussi aux aiguilles. Et donc, dans le cadre du livre, il signe justement un chapitre où il lit. Parce que c'est vrai que dans la grotte de Blombos, c'est environ 80 000 ans. Puis il y a une autre grotte en Australie, Carpenter's Gap 1. C'est environ il y a 50 000 ans. Et il y a la grotte des Reines en France, il y a 42 000 ans. Donc, dans ces endroits-là, on a retrouvé des aiguilles très fines qui sont adaptées à faire des piercings et des tatouages. On ne sait pas s'ils faisaient ça, mais c'était possible.
C'est possible.
Dans ces endroits-là, il y avait du pigment. Et ce qui fait Francesco De Rico, c'est qu'il lit ça plutôt à l'émergence du vêtement. En disant que les vêtements ont émergé, c'est pas très exactement, mais au moins il y a 80 000 ans en Afrique. Donc l'homme avait perdu les poils avant, pendant un moment il est resté comme ça, puis il a voulu coloniser des endroits où il fallait avoir des vêtements, pour une raison ou pour une autre, et les vêtements se prêtent très bien à être culturalisés. Donc les vêtements on les teint, les vêtements on les protège par rapport aux parasites, donc vous avez l'encre, vous avez les aiguilles, donc du moment où vous avez les vêtements, peut-être qu'il y a une invitation à faire des parures d'une autre sorte, parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Et donc, on peut rajouter un message symbolique. Ce qui est très important à dire aussi, c'est qu'on a souvent pensé que l'émergence de cette pensée symbolique qui nous permettait d'attribuer un code aux choses, où vous baladez dans la rue, en dévisageant les personnes que vous rencontrez, vous vous faites une idée s'ils travaillent plutôt dans la banque, dans l'assurance, s'ils sont artistes, etc. C'est des préjugés. Mais quand même, ça permet d'avoir une indication, puisqu'il y a cette l'apparence, le langage visuel prime sur le langage verbal. Donc ça peut être très ancien. Et donc, par les vêtements qui se complexifient, mais cette complexification des pratiques symboliques, elle est progressive. Oui. Lorsqu'on avait pensé qu'il y a 50 000 ans, en gros, quelque chose se passe, une mutation génétique, et les gens deviennent symboliques et avant, ils étaient abrutis.
Non, c'est pas le cas. Voilà. C'est beaucoup
donc,
plus progressif.
C'est beaucoup plus progressif. Donc, il y a vraiment une continuité. Et les modifications corporelles peuvent s'inclure dans cette continuité, même parce que si on parle que du tatouage, c'est assez facile d'inventer le tatouage. Si vous avez une petite blessure dans la main et que vous mettez la main dans la cendre de bois parce que vous avez fait du feu ou que vous tombez là où il y a de la cendre du bois et du charbon, et donc ça se peut que ça vous laisse une marque. Alors vous dites, ah tiens, c'est une marque que j'avais pas souhaitée, mais finalement il y a moyen pour que l'encre reste dans la peau. Et donc vous pouvez inventer le tatouage. Donc le tatouage a sans doute été inventé mille fois.
De façon fortuite,
façon fortuite. Et donc, ça, c'est la deuxième piste. Et la troisième piste pour analyser ces restes anciens, c'est de faire des cartographies, d'analyser géographiquement, d'essayer de dégager. Parce qu'évidemment, au sein d'une société, il y a une mode qui vient, il y en a une autre qui part.
Et ça, c'est très intéressant, Franz Mani, parce que justement, on en revient à la question de la fonction de ces tatouages. Si ça part d'une invention fortuite, ça peut avoir, on le disait tout à l'heure, une fonction thérapeutique, mais c'est aussi très normé à partir du moment où ça se développe et où ça s'installe dans une culture. Aujourd'hui, on a un rapport au tatouage qui est un rapport de finalement dans les cultures occidentales. C'est un geste, si je grossis le trait, c'est un geste de liberté, d'une certaine façon, d'une appropriation vis-à-vis de son corps, alors que dans les cultures très anciennes, ça avait une fonction très spécifique, très normative, et ça, il faut en parler, Franz Mani.
Oui, parce que dans la société occidentale, le tatouage, il est venu par les récits ethnologiques, par, je ne sais pas, il y a un livre de 1788 qui est un des premiers costumes civils actuels de tous les peuples connus, qui avait eu une grande circulation, parce qu'il y avait des images de Jacques Grasset de Saint-Sauveur où on voyait des vêtements d'ailleurs, des peuples d'ailleurs. Puis il y avait eu les comptes rendus de voyage du capitaine Cook en 1921. Puis il y a les voyages pittoresques autour du monde des deux Amériques, du monde d'Urville. Donc, au cours du 19e siècle, il y a ces images qui viennent donc aux Européens, on leur montre d'autres pratiques. Et donc, ça crée un effet de mode qui se répand chez les aristocrates ou bien chez les militaires,
les marins.
Ou bien les marins, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment venu de la presse, si vous voulez. On a dit, ah tiens, on pourrait essayer de faire ça nous aussi. Mais donc, ça, il n'y a pas vraiment une tradition normée lorsque dans ces peuples, de ces cultures qui pratiquent le tatouage depuis un temps très long immémoriel, même si ça a été éradiqué dans la plupart des endroits par les colonialismes.
On s'accapare finalement une pratique, voilà. On la vit dans de son
d'abord,
sens.
D'abord, on l'éradique chez les autres, puis voilà. On fait des articles, et puis ça excite le public et on redémarre. Ça.
Et alors finalement, le sens de ces tatouages a pu se perdre aussi dans le cadre de... Voilà. Le sens qui a été transmis de génération en génération pendant des millénaires, pendant des siècles au moins, s'est perdu aussi avec la colonisation, parce qu'il y a eu des grandes pratiques d'interdiction de ce genre de pratiques-là.
Sans doute, c'était très découragé. Mais le message du tatouage traditionnel, il est souvent biographique. En regardant les tatouages de quelqu'un, on sait quel âge il est, quelle est sa place dans la société, quels sont ses accomplissements militaires peut-être. On peut voir, on le voit déjà, mais il peut y avoir quelque chose de spécifique aux femmes ou bien aux hommes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi comment le tatouage est réalisé, et ça on le voit dans l'ethnographie. Donc il y a une façon de le faire, il y a des encres qui sont utilisées, donc il y a plein de perspectives pour le présent aussi.
Plein de perspectives pour le présent. On voit qu'à partir d'une petite réexamen, d'un réexamen joli d'une momie, on peut ouvrir la porte à une archéologie du tatouage et plus globalement des modifications corporelles dont vous êtes spécialiste. Merci beaucoup à vous, Franz Mani, de vous être joint à nous et d'avoir tatoué... nos oreilles, je sais pas. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve-Étienne, Bruno Sansigny à la réalisation, Louève Voisin, notre formidable stagiaire de 3e, accompagné d'un autre petit stagiaire, Olivier Bétard. Merci beaucoup à Jean-Guilain Meige, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires, l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.